Édouard Chouret, Les grands initiés, livre 8, Jésus, la mission du Christ. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Matthieu, chapitre 5, verset 17. La lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connu. Jean, chapitre 1, verset 10. L'avènement du Fils de l'homme sera comme un éclair qui sort de l'Orient et va jusqu'en Occident. Matthieu, chapitre 24, verset 27. La mission du Christ. Note. Le travail accompli depuis 100 ans par la critique sur la vie de Jésus est certainement un des plus considérables de ce temps-ci. On en trouvera un aperçu complet dans le lumineux résumé qu'en a fait M. Sabatier, Dictionnaire des sciences religieuses, par Lichtenberger, tome 7, article Jésus. Cette belle étude donne tout l'historique de la question et en marque avec précision l'état actuel. Je rappellerai simplement ici les deux phases principales qu'elle a traversées avec Strauss et Renan pour mieux établir le point de vue nouveau auquel je me suis placée. Sortant de l'école philosophique d'Hegel et se rattachant à l'école critique et historique de Bauer, Strauss, sans nier l'existence de Jésus, essaya de prouver que sa vie telle qu'elle est racontée dans les évangiles, est un mythe, une légende créée par l'imagination populaire pour les besoins du christianisme naissant et selon les prophéties de l'Ancien Testament. Sa thèse purement négative, défendue avec une extrême ingéniosité et une profonde érudition, s'est trouvée vraie sur certains points de détail, mais absolument insoutenable dans l'ensemble et sur les points essentiels. Elle a en outre le grave défaut de n'expliquer ni le caractère de Jésus ni l'origine du christianisme. La vie de Jésus de Strauss est un système planétaire sans soleil. Il faut lui accorder néanmoins un mérite considérable, celui d'avoir transféré le problème du domaine de la théologie dogmatique sur celui de la critique des textes et de l'histoire. La vie de Jésus de M. Renan a dû sa brillante fortune à ses hautes qualités esthétiques et littéraires, mais aussi à l'audace de l'écrivain qui a le premier osé faire de la vie du Christ un problème de psychologie humaine. L'a-t-il résolu? Après le succès étourdissant du livre, l'avis général de la critique sérieuse a été que non. Le Jésus de M. Renan commence sa carrière en doux rêveur, en moraliste enthousiaste et naïf. Il la termine en thaumaturge violent qui a perdu le sens de la réalité. Malgré tous les ménagements de l'historien, dit M. Sabatier, c'est la marche d'un esprit saint vers la folie. Le Christ de M. Renan flotte entre les calculs de l'ambitieux et les rêves de l'illuminé. Le fait est qu'il devient le Messie sans le vouloir et presque sans le savoir. Il ne se laisse imposer ce nom que pour complaire aux apôtres et aux désirs populaires. Ce n'est pas avec une foi si faible qu'un vrai prophète crée une religion nouvelle et change l'âme de la terre. La vie de Jésus, de M. Renan, est un système planétaire éclairé par un pâle soleil, sans magnétisme vivifiant, et sans chaleur créatrice. Comment Jésus est-il devenu le Messie? Voilà la question primordiale, essentielle, dans la conception du Christ. C'est justement celle devant laquelle M. Renan a hésité et biaisé. M. Théodore Kem a compris qu'il fallait l'aborder du front. La vie de Jésus, Zurich, 1875, troisième édition. Sa vie de Jésus est la plus remarquable qu'on ait écrite depuis celle de M. Renan. Elle éclaire la question de tout le jour qu'on peut tirer des textes et de l'histoire interprétés ésotériquement. Mais le problème n'est pas de ce qu'on puisse résoudre sans l'intuition et sans la tradition ésotérique. C'est avec cette lumière ésotérique, flambeau intérieur de toutes les religions, vérité centrale de toute philosophie féconde, que j'ai tenté de reconstruire la vie de Jésus dans ses grandes lignes, en tenant compte de tout le travail antérieur de la critique historique qui a déblayé le terrain. Je n'ai pas besoin de définir ici ce que j'entends par le point de vue ésotérique, synthèse de la science et de la religion. Tout ce livre en est le développement, et j'ajouterai simplement, en ce qui concerne la valeur historique et relative des évangiles, que j'ai pris les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, pour base, et Jean, comme l'arcane de la doctrine ésotérique du Christ, tout en admettant la rédaction postérieure et la tendance symbolique de cet évangile. Les quatre évangiles qu'on doit contrôler et rectifier les uns par les autres sont également authentiques, mais à des titres différents. Matthieu et Marc sont les évangiles précieux de la lettre et du fait. Là se trouvent les actes et les paroles publiques. Le doux Luc laisse entrevoir le sens des mystères sous le voile poétique de la légende. C'est l'évangile de l'âme, de la femme et de l'amour. Saint Jean dévoile ses mystères. On trouve chez lui les dessous profonds de la doctrine, l'enseignement secret, le sens de la promesse, la réserve ésotérique. Clément d'Alexandrie, l'un des rares évêques chrétiens qui eurent la clé de l'ésotérisme universel, l'a donc bien nommé l'évangile de l'esprit. Jean a une vue profonde des vérités transcendantes révélées par le Maître et une manière puissante de les résumer. Aussi a-t-il pour symbole l'aigle dont l'aile franchit les espaces et dont l'œil flamboyant les possède. Chapitre 1 État du monde à la naissance de Jésus. L'heure du monde se faisait solennelle. Le ciel de la planète était sombre et plein de présages sinistres. Malgré l'effort des initiés, le polythéisme n'avait abouti en Asie, en Afrique et en Europe qu'à une débâcle de la civilisation. Cela n'atteint pas la sublime cosmogonie d'Orphée, si splendidement chantée, mais déjà diminuée par Homère. On ne peut en accuser que la difficulté pour la nature humaine de se maintenir à une certaine hauteur intellectuelle. Pour les grands esprits de l'Antiquité, les dieux ne furent jamais qu'une expression poétique des forces hiérarchisées de la nature, une image parlante de son organisme interne, et c'est aussi comme symbole des forces cosmiques et animées que ces dieux vivent indestructibles dans la conscience de l'humanité. Dans la pensée des initiés, cette diversité des dieux ou des forces était dominée et pénétrée par le dieu suprême ou esprit pur. Le but principal des sanctuaires de Memphis, de Delphes et d'Éleusis avait été précisément d'enseigner cette unité de Dieu avec les théories théosophiques et la discipline morale qui s'y rattachent. Mais les disciples d'Orphée, de Pythagore et de Platon échouèrent devant l'égoïsme des politiciens, devant la mesquinité des sophistes et les passions de la foule. La décomposition sociale et politique de la Grèce fut la conséquence de sa décomposition religieuse, morale et intellectuelle. Apollon, le Verbe solaire, la manifestation du Dieu suprême et du monde supraterrestre par la beauté, la justice et la divination, se tait. Plus d'oracles, plus d'inspirés, plus de vrais poètes, Minerve, sagesse et providence se voilent devant son peuple changé en satyre, qui profane les mystères, insulte les sages et les dieux sur le théâtre de Bacchus dans les farces aristophanesques. Les mystères eux-mêmes se corrompent, car on admet les sycophantes et les courtisanes aux fêtes d'Eleusis. Quand l'âme s'épaissit, la religion devient idolâtre. Quand la pensée se matérialise, la philosophie tombe dans le scepticisme. Aussi voyons-nous Lucien, microbe naissant sur le cadavre du paganisme, railler les mythes après que Carnéade en a méconnu l'origine scientifique. Superstitieuse en religion, agnostique en philosophie, égoïste et dissolvante en politique, ivre d'anarchie et fatalement vouée à la tyrannie. Voilà ce qu'était devenue cette Grèce divine qui nous a transmis la science égyptienne et les mystères de l'Asie sous les formes immortelles de la beauté. Si quelqu'un comprit ce qui manquait au monde antique, si quelqu'un essaya de le relever par un effort d'héroïsme et de génie, ce fut Alexandre le Grand. Ce légendaire conquérant, initié comme son père Philippe, au mystère de Samothrace, se montra encore plus fils intellectuel d'Orphée que disciple d'Aristote. Sans doute l'Achille de la Macédoine, qui se jeta avec une poignée de Grecs à travers l'Asie jusqu'en Inde, rêva l'Empire universel, mais non pas à la façon des Césars, par l'oppression des peuples, par l'écrasement de la religion et de la science libre. Sa grande idée fut la réconciliation de l'Asie et de l'Europe par une synthèse des religions appuyée sur une autorité scientifique. Mû par cette pensée, il rendit hommage à la science d'Aristote comme à la Minerve d'Athènes, au Jéhovah de Jérusalem, comme à l'Osiris égyptien et au Brahma des Hindous, reconnaissant en véritable initié la même divinité et la même sagesse sous tous ses symboles. Large vue, superbe divination de ce nouveau Dionysos, l'épée d'Alexandre fut le dernier éclair de la Grèce d'Orphée. Il illumina l'Orient et l'Occident. Le fils de Philippe mourut dans l'ivresse de sa victoire et de son rêve, laissant les lambeaux de son empire à des généraux rapaces. Mais sa pensée ne mourut pas avec lui. Il avait fondé Alexandrie, où la philosophie orientale, le judaïsme et l'hellénisme devaient se fondre au creuset de l'ésotérisme égyptien, en attendant la parole de résurrection du Christ. À mesure que les astres jumeaux de la Grèce, Apollon et Minerve, descendaient en pâlissant sur l'horizon, les peuples virent monter dans le ciel orageux un signe menaçant, la louve romaine. Quelle est l'origine de Rome? La conjuration d'une oligarchie avide au nom de la force brutale, l'oppression de l'intellect humain, de la religion, de la science et de l'art par le pouvoir politique déifié. En d'autres termes, le contraire de la vérité, d'après laquelle un gouvernement ne tire son droit que des principes suprêmes de la science, de la justice et de l'économie. Toute l'histoire romaine n'est que la conséquence de ce pacte d'iniquité par lequel les pères conscrits déclarèrent la guerre à l'Italie d'abord, ensuite aux gens romains. Ils choisirent bien leur symbole. La louve d'airain, qui dresse son poil fauve et avance sa tête d'hyène sur le Capitole, est l'image de ce gouvernement, le démon qui possédera jusqu'au bout l'âme romaine. En Grèce, du moins, on respecta toujours les sanctuaires de Delphes et d'Eleusis. À Rome, on repoussa, dès l'origine, la science et l'art. La tentative du sage Numa, l'initié étrusque, échoua devant l'ambition soupçonneuse des pères conscrits. Il apporta avec lui les livres sibyllins qui contenaient une partie de la science d'Hermès. Il créa des juges arbitres élus par le peuple. Il y distribua des terres.
Il éleva un temple à la bonne foi et à Janus, hiérogramme, qui signifie l'universalité de la loi. Il soumit le droit de guerre aux fessiaux. Le roi Numa, que la mémoire du peuple ne cessa de chérir et qu'il considérait comme inspiré par un génie divin, semble donc une intervention historique de la science sacrée dans le gouvernement. Il ne représente pas le génie romain, mais le génie de l'initiation étrusque, qui suivait les mêmes principes que l'école de Memphis et de Delphes. Après Numa, le Sénat romain brûla les livres sibyllins, ruina l'autorité des Flamines, détruisit les institutions arbitrales et revint à son système où la religion n'était qu'un instrument de domination politique. Rome devint l'hydre qui engloutit les peuples avec leurs dieux. Les nations de la terre furent peu à peu soumises et spoliées. La prison mamertine se remplit des rois du Nord et du Midi. Rome, ne voulant d'autres prêtres que des esclaves et des charlatans, assassine en Gaule, en Égypte, en Judée et en Perse les derniers détenteurs de la tradition ésotérique. Elle fait semblant d'adorer les dieux, mais elle n'adore que sa louve. Et maintenant, dans une aurore sanglante, apparaît le génie de Rome, César. Rome a absorbé tous les peuples. César, son incarnation, dévore tous les pouvoirs. César n'aspire pas seulement à être impérator des nations. Joignant sur sa tête la tiare au diadème, il se fait nommer grand pontife. Après la bataille de Thapsus, on lui vote l'apothéose divine. Puis, sa statue est mise dans le temple de Quirinus, avec un collège de desservants portant son nom, les prêtres juliens. Par une suprême ironie et une suprême logique des choses, ce même César, qui se fait Dieu, nie l'immortalité de l'âme en plein Sénat. Est-ce à dire qu'il n'y a plus d'autre Dieu que César? Avec les Césars, Rome, héritière de Babylone, étend sa main sur le monde entier. Or, qu'est devenu l'État romain? L'État romain détruit au dehors toute vie collective. Dictature militaire en Italie, exaction des gouverneurs et des publicains dans les provinces. Rome conquérante est couchée comme un vampire sur le cadavre des sociétés antiques. Et maintenant, l'orgie romaine peut s'étaler au grand jour, avec sa bacchanale de vices, et son défilé de crimes. Elle commence par la voluptueuse rencontre de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Elle finira par les débordements de Messaline et les fureurs de Néron. Elle débute par la parodie lascive et publique des mystères. Elle s'achèvera dans le cirque romain où des bêtes fauves se rueront sur des vierges nues, martyrs de leur foi, aux applaudissements de 20 000 spectateurs. Cependant, parmi les peuples conquis par Rome, il y en avait un qui se nommait le peuple de Dieu et dont le génie était l'opposé du génie romain. D'où vient qu'Israël, usé par ses luttes intestines, écrasé par 300 ans de servitude, avait conservé sa foi indomptable? Pourquoi ce peuple vaincu se dressait-il en face de la décadence grecque et de l'orgie romaine comme un prophète, la tête couverte d'un sac de cendre et les yeux flambants d'une colère terrible? Pourquoi osait-il prédire la chute des maîtres qui avaient le pied sur sa gorge et parler de je ne sais quel triomphe final alors que lui-même approchait de sa ruine irrémédiable? C'est qu'une grande idée vivait en lui. Elle lui avait été inculquée par Moïse. Sous Josué, les 12 tribus avaient dressé une pierre commémorative avec cette inscription. C'est un témoignage entre nous que Yahvé est le seul Dieu. Comment et pourquoi le législateur d'Israël avait fait du monothéisme la pierre angulaire de sa science, de sa foi sociale et d'une idée religieuse universelle. Nous l'avons vu au livre de Moïse. Il avait eu le génie de comprendre que du triomphe de cette idée dépendait l'avenir de l'humanité. Pour la garder, il avait écrit un livre hiéroglyphique, construit une arche d'or, suscité un peuple de la poussière nomade du désert. Sur ces témoins de l'idée spiritualiste, Moïse fait planer le feu du ciel et gronder la foudre. Contre eux se conjurèrent non seulement les Moabites, les Philistins, les Amalécites, toutes les peuplades de la Palestine, mais encore les passions et les faiblesses du peuple juif lui-même. Le livre cessa d'être compris par le sacerdoce. L'arche fut prise par les ennemis, et 100 fois, le peuple faillit oublier sa mission. Pourquoi donc lui demeura-t-il fidèle malgré tout? Pourquoi l'idée de Moïse resta-t-elle gravée au front et au cœur d'Israël en lettres de feu? À qui est due cette persévérance exclusive, cette fidélité grandiose à travers les vicissitudes d'une histoire agitée, pleine de catastrophes? Fidélité qui donne à Israël sa physionomie unique parmi les nations. On peut répondre hardiment au prophète et à l'institution du prophétisme. Rigoureusement et par la tradition orale, elle remonte jusqu'à Moïse. Le peuple hébreu a eu des nabis à toutes les époques de son histoire jusqu'à sa dispersion. Mais l'institution du prophétisme nous apparaît pour la première fois sous une forme organique à l'époque de Samuel. Ce fut Samuel qui fonda ses confréries de Nébihim, ses écoles de prophètes en face de la royauté naissante et d'un sacerdoce déjà dégénéré. Il en fit les gardiennes austères de la tradition ésotérique et de la pensée religieuse universelle de Moïse, contre les rois, en qui devait prédominer l'idée politique et le but national. Dans ces confréries se conservèrent, en effet, les restes de la science de Moïse, la musique sacrée avec ses modes et ses pouvoirs, la thérapeutique occulte, enfin l'art de la divination que les grands prophètes déployèrent avec une puissance, une hauteur et une abnégation magistrale. La divination a existé sous les formes et par les moyens les plus divers chez tous les peuples de l'ancien cycle. Mais le prophétisme en Israël a une envergure, une élévation, une autorité où le monothéisme maintient l'âme huitaine. Le prophétisme, présenté par les théologiens de la terre comme la communication directe d'un Dieu personnel, nié par la philosophie naturaliste comme une pure superstition, n'est en réalité que la manifestation supérieure des lois universelles de l'esprit. Les vérités générales qui gouvernent le monde, disait Ewald dans son beau livre sur les prophètes, en d'autres termes, les pensées de Dieu sont inchangeables et inattaquables, tout à fait indépendantes des fluctuations des choses, de la volonté et de l'action des hommes. L'homme est appelé originairement à y participer, à les comprendre et à les traduire librement en actes. C'est par là qu'il atteint sa propre, sa véritable destination. Mais pour que le verbe de l'esprit pénètre dans l'homme de chair, il faut que l'homme soit secoué jusqu'au fond par les grandes commotions de l'histoire. Alors la vérité éternelle en jaillit comme une traînée de lumière. C'est pourquoi il est dit si souvent dans l'Ancien Testament que Yahvé est un Dieu vivant. Quand l'homme écoute l'appel divin, une nouvelle vie s'édifie en lui, dans laquelle il ne se sent plus seul, mais en communion avec Dieu et avec toutes les vérités, et où il est prêt à marcher d'une vérité à l'autre jusqu'à l'infini. Dans cette nouvelle vie, sa pensée s'identifie avec la volonté universelle. Il a la vue claire du temps présent et la foi entière dans le succès final de l'idée divine. L'homme qui éprouve cela est prophète, c'est-à-dire qu'il se sent irrésistiblement poussé à se manifester aux autres comme représentant de Dieu. Sa pensée devient vision, et cette force supérieure qui fait jaillir la vérité de son âme, quelquefois en la brisant, constitue l'élément prophétique. Les manifestations prophétiques ont été dans l'histoire les coups de foudre et les éclairs de la vérité. Ewald, Les prophètes, introduction. Voilà la source où ces géants qui se nomment Élie, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie puisèrent leur force. Au fond de leur caverne ou dans les palais des rois, ils furent vraiment les sentinelles de l'Éternel et, comme dit Élisée à son maître Élie, les chariots et les cavaliers d'Israël. Souvent, ils prédisent avec une parfaite clairvoyance la mort des rois, la chute des royaumes, les châtiments d'Israël. Parfois aussi, ils se trompent. Quoique allumés au soleil de la vérité divine, le flambeau prophétique vacille et s'obscurcit quelquefois dans leurs mains au souffle des passions nationales. Mais jamais ils ne bronchent sur les vérités morales, sur la vraie mission d'Israël, sur le triomphe final de la justice dans l'humanité. En vrais initiés, ils prêchent le mépris du culte extérieur, l'abolition des sacrifices sanglants, la purification de l'âme et la charité. Où leur vision est admirable, c'est en ce qui concerne la victoire finale du monothéisme, son rôle libérateur et pacificateur pour tous les peuples. Les plus affreux malheurs qui puissent frapper une nation, l'invasion étrangère, la déportation en masse en Babylonie, ne peuvent ébranler cette foi. Écoutez Isaïe pendant l'invasion de Sennachérib. Moi qui fais enfanter les autres, ne ferai-je pas enfanter Sion, a dit l'Éternel? Moi qui fais naître, l'empêcherai-je d'enfanter, a dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez, vous tous qui pleuriez sur elle. Réjouissez-vous avec elle d'une grande joie. Car ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais faire couler sur elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités et vous serez portés sur le côté et on vous caressera les genoux. Je vous consolerai comme une mère console son fils et vous serez consolés dans Jérusalem. Voyant leurs œuvres et leurs pensées, je viens pour rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Isaïe 56, 10, 16. Ce n'est guère qu'aujourd'hui et devant le tombeau du Christ que cette vision commence à se réaliser. Mais qui pourrait nier sa vérité prophétique en songeant au rôle d'Israël dans l'histoire de l'humanité? Non moins inébranlable que cette foi en la gloire future de Jérusalem, en sa grandeur morale, en son universalité religieuse, est la foi des prophètes en un sauveur ou un messie. Tous en parlent. L'incomparable Isaïe est encore celui qui le voit le plus nettement, qui le dépeint avec le plus de force dans son hardi langage. Il sortira un rejeton du tronc de Jessé. Un surgeon croîtra de ses racines et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. Il jugera avec justice les petits, et il condamnera avec droiture pour maintenir les dépolaires de la terre. Et il frappera la terre de la verge et de sa bouche, et il fera mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. Isaïe 11, 1, 5. À cette vision, l'âme sombre du prophète se calme et s'éclaircit, comme un ciel d'orage au frémissement d'une harpe céleste. Et toute cette tempête s'enfuit, car maintenant c'est vraiment l'image du Galiléen qui se dessine à son œil intérieur. Il est sorti comme une fleur de la terre sèche. Il a grandi sans éclat. Il est méprisé et le dernier des hommes, un homme de douleur. Il s'est chargé de nos douleurs et nous avons cru qu'il était frappé de Dieu. Mais il a été navré par nos forfaits et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et nous avons la guérison par sa meurtrissure. On le presse, on l'accable. Il a été mené à la tuerie comme un agneau et il n'a pas ouvert la bouche. Isaïe 53, 2, 8. Pendant 8 siècles, au-dessus des dissensions et des infortunes nationales, le verbe tonnant des prophètes fit planer l'idée et l'image du Messie, tantôt comme un vengeur terrible, tantôt comme un ange de miséricorde. Couvé sous la tyrannie assyrienne, dans l'exil de Babylone, et close sous la domination persane, l'idée messianique ne fit que grandir sous le règne des Séléucides et des Maccabées. Quand vinrent la domination romaine et le règne d'Hérode, le Messie vivait dans toutes les consciences. Si les grands prophètes l'avaient vu sous les traits d'un juste, d'un martyr, d'un véritable fils de Dieu, le peuple, fidèle à l'idée judaïque, se le figurait comme un David, comme un Salomon, ou comme un nouveau Maccabée. Mais quel qu'il fût, ce restaurateur de la gloire d'Israël, tout le monde y croyait, l'attendait, l'appelait. Telle est la force de l'action prophétique. Ainsi, de même que par l'histoire romaine aboutit fatalement à César par la voie instinctive et la logique infernale du destin, de même, l'histoire d'Israël conduit librement au Christ par la voie consciente et la logique divine de la Providence, manifestée en ses représentants visibles, les prophètes. Le mal est fatalement condamné à se contredire et à se détruire lui-même parce qu'il est le faux. Mais le bien, malgré tous les obstacles, engendre la lumière et l'harmonie dans la série des temps, parce qu'il est la fécondité du vrai. De son triomphe, Rome ne tira que le césarisme. De son effondrement, Israël enfanta le Messie, donnant raison à cette belle parole d'un poète moderne: de son propre naufrage, l'espérance crée la chose contemplée. Une vague attente était suspendue sur les peuples. Dans l'excès de ces maux, l'humanité entière pressentait un sauveur. Depuis des siècles, les mythologies rêvaient d'un enfant divin. Les temples en parlaient avec mystère. Les astrologues calculaient sa venue. Des sibylles en délire avaient vociféré la chute des dieux païens. Les initiés avaient annoncé qu'un jour, le monde serait gouverné par un des leurs, par un fils de Dieu. La terre attendait un roi spirituel qui serait compris des petits, des humbles et des pauvres. Le grand Échille, fils d'un prêtre d'Éleusis, faillit se faire tuer par les Athéniens, parce qu'il osa dire en plein théâtre, par la bouche de son Prométhée, que le règne de Jupiter Destin finirait. 4 siècles plus tard, à l'ombre du trône d'Auguste, le doux Virgile annonce un âge nouveau et rêve d'un enfant merveilleux. Il est venu ce dernier âge prédit par la Sibylle de Cumes. Le grand ordre des siècles épuisés recommence. Déjà revient la Vierge, et avec elle le règne de Saturne. Déjà, du haut des cieux, descend une race nouvelle. Cet enfant, dont la naissance doit bannir le siècle de fer et ramener l'âge d'or dans le monde entier, daigne au chaste Lucile le protéger. Déjà règne Apollon, ton frère. Vois sur son axe ébranlé se balancer le monde. Vois la terre, les mers dans leur immensité, le ciel et sa voûte profonde, la nature tout entière, tressaillir à l'espérance du siècle à venir. Virgile, églogue 4. Cet enfant, où naîtra-t-il? Dans quel monde divin viendra cette âme? Par quel éclair d'amour descendra-t-elle sur cette terre? Par quelle pureté merveilleuse, par quelle énergie surhumaine, se souviendra-t-elle du siècle quitté? Par quel effort plus gigantesque saura-t-elle y rebondir du fond de sa conscience terrestre et y entraîner l'humanité à sa suite? Personne n'eût pu le dire, mais on l'attendait. Hérode le Grand, l'usurpateur iduméen, le protégé de César Auguste, agonisait alors dans son château de Cypros à Jéricho, après un règne somptueux et sanglant qui avait couvert la Judée de palais splendides et d'hécatombes humaines. Il expirait d'une affreuse maladie, d'une décomposition du sang, haï de tous, rongé de fureur et de remords, hanté par les spectres de ses innombrables victimes, parmi lesquelles se dressaient sa femme innocente, la noble Marianne, du sang des Maccabées, et trois de ses propres fils. Les sept femmes de son harem avaient fui devant le fantôme royal qui, vivant encore, sentait déjà le sépulcre. Ses gardes même l'avaient abandonné. Impassible, à côté du moribond, veillait sa sœur Salomé, son mauvais génie, instigatrice de ses crimes les plus noirs. Le diadème au front, la poitrine étincelante de pierreries, dans une attitude altière, elle épiait le dernier soupir du roi pour saisir le pouvoir à son tour. Ainsi mourut le dernier roi des Juifs. À ce moment même, venait de naître le futur roi spirituel de l'humanité, et les rares initiés d'Israël préparaient en silence son règne dans une humilité et une obscurité profonde.